Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard-Flavigny.
Bonjour. Nous repartons pour l'île de Malte en compagnie d'Anne Jouffroy, historienne et rédacteur en chef de la revue culturelle Signature.
Bonjour.
Cette fois, nous allons faire un plongeon lointain dans l'histoire en visitant les monuments mégalithiques qui parsèment l'île, je veux dire l'archipel. L'image de Malte est liée aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, mais Malte existait bien avant que ces chevaliers ne vinssent s'y installer, témoin à ces extraordinaires sites mégalithiques. Certains assurent que l'île est la Calypso de l'Odyssée. Ovide cite Battus, roi de Mélite. Saint Paul fit naufrage sur les côtes de l'île et les Actes des Apôtres en consignent le récit. Pline l'Ancien décrit le Catulos Militateos, le chien maltais. Et Pierre Vidal, qui fut actif au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle, un troubadour français, y composa plusieurs chants. Puis Domenico Silvestri, au XIVe siècle, un petit morceau du XVe, qui fut le premier des modernes à décrire l'univers insulaire, a laissé un manuscrit conservé à la bibliothèque de Turin, intitulé « Aerum Propriatabus ». Il contient la première véritable description de Malte. Mais le premier Maltais a donné une description de son île, Giovanni Meriti, au XVIe siècle, décrit d'abord la situation géographique de l'archipel, astronomique et climatique. À ce propos, Anne Jouffroy, si vous me donnez une description géographique de cet archipel situé au carrefour, au pluriel carrefour, de la Méditerranée.
Oui, vous dites bien carrefour au pluriel, parce que carrefour nord-sud et est-ouest. Malte est un marchepied entre le bassin occidental et le bassin oriental de la Méditerranée, d'une part, et entre le continent africain et le continent européen, d'autre part. Et d'ailleurs, l'archipel a un destin ancestral unique dans cette partie du monde. C'est à peine un point sur la carte de la Méditerranée, mais c'est un point incontournable. Deux éléments de sa géographie ont décidé de son histoire. Sa situation géographique, on vient de l'évoquer, et la nature de son sol. Et comme toujours, la géographie est la sœur aînée de l'histoire. Effectivement, les îles maltaises, d'abord, elles tirent leur nom, peut-être de l'histoire, mais peut-être de la géographie. Les îles maltaises sont blondes comme le miel, tout entières façonnées dans le calcaire doré qui s'est constitué il y a plus de 20 millions d'années lors de la sédimentation marine. Pour bien comprendre Malte, même si c'est parfois un peu rebutant, il est indispensable de se pencher sur sa géologie. Sur la géologie, quatre couches sédimentaires se sont superposées, dont trois de calcaire, et ce seront les plus importantes pour nous. Alors la première couche est riche en fossiles marins, c'est le calcaire corallien inférieur qui sert de soubassement aux falaises des îles, comme il servira de soubassement aux falaises des temples, car c'est une couche très dure, exploitée pour les terrassements et la construction, et cette couche est recouverte à son tour de strates d'un autre type de calcaire, c'est le fameux calcaire à globigérine. Je dis fameux parce que les globigérines sont évoquées très souvent dans l'histoire de Malte. Ce sont des protozoaires qui sont caractéristiques de la fabrication des calcaires tendres. Ce n'est pas très courant, les calcaires tendres, et à Malte, il y en a.
Ils se sont formés à quelle époque? Il y a 21 millions d'années.
21 millions d'années, ils nous offrent maintenant une pierre blonde et tendre qui va servir cette fois-ci plutôt aux décorations. La troisième strate, c'est une petite couche d'argile qui, elle, s'est formée il y a 16 millions d'années. Et enfin, la dernière couche s'est installée, c'est pas si vieux, seulement 6 millions d'années. Et c'est le calcaire corallien encore, mais le calcaire corallien supérieur, puisque c'est celui qui coiffe tout et qui coiffe les sommets aplatis des collines à un peu plus de 200 mètres. Malte, donc, résumons-nous, est un caillou calcaire. Et comme toujours, quand on parle de calcaire, on parle d'érosion karstique parce que l'action dissolvante des eaux de pluie sur la roche calcaire, et ça a eu lieu il y a environ 1 million d'années, a provoqué des grottes et des zones d'effondrement. Et c'est d'ailleurs un endroit qui a subi beaucoup de transformations géologiques parce qu'il est probable que voici encore 1 million d'années, l'archipel maltais était un isthme reliant l'Afrique à la Sicile. On pouvait peut-être passer à pied sec. En tout cas, il y en a qui sont passés à pied sec. Ce sont des éléphants et des rhinocéros, parce que nous avons retrouvé leurs ossements dans certaines grottes. Ça, c'était à l'époque paléolithique.
Et quel aspect ça donne-t-il, ces grottes paléolithiques, c'est tout cet aspect de Malte?
Les côtes maltaises sont souvent battues par les vents. Alors, on l'appelle le sirocco en été, c'est le vent chaud du sud. La grecale en hiver. Disons que ce phénomène venteux, parce que le vent est important à Naples, ajouté à des périodes de sécheresse, puisque nous sommes quand même non loin de la Tunisie, plus le sol calcaire, on vient de le comprendre, ça donne à première vue un aspect aride et nu à l'île. Mais l'âpreté de la nature ajoute au charme de l'île.
Bah, charme, oui, vous dites qu'il y a du charme. Mais ce charme, est-ce qu'on peut le retrouver dans ces trésors inconnus, ces temples mégalithiques qui, dans le fond, sont tout à fait récents, parce qu'après les millions d'années que vous évoquez, nous datent seulement de 5000 ans, ce qui n'est rien, avant Jésus-Christ, bien sûr. Et ces temples mégalithiques ont ce titre particulier qu'on l'ignore complètement, en France notamment, et j'allais ajouter, même dans les meilleurs ouvrages des meilleurs éditeurs.
Oui, c'est vraiment très regrettable, parce que ces temples si mal connus sont les ruines monumentales d'une ancienne et mystérieuse, ce sont des mots que je choisis avec beaucoup de soin, une ancienne et mystérieuse civilisation apparue au Néolithique. Ces ruines attestent que l'archipel de Malte, alors je parle de l'archipel de Malte parce que vous avez plusieurs îles, Malte, Gozo, qui est beaucoup plus petit, encore plus petit, Comino, et puis un rocher, une espèce de caillou tout seul, qui s'appelle Filfla, qui est au sud. Donc l'archipel de Malte a connu un très haut degré de développement pour l'époque, parce que nous sommes entre 4500 ans et 2500 ans avant Jésus-Christ. On peut résumer ainsi, il y a eu deux millénaires de prouesses architecturales, et ceci bien avant la grande civilisation de la Crète. Et les spécialistes sont nombreux à penser que la Crète, en fait, est dans une certaine mesure débitrice de Malte. Alors, on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas non plus quel dieu on adorait dans ces curieux temples. Je dis curieux parce qu'ils avaient un plan ellipsoïdal et aucune autre architecture de cette époque en Méditerranée ne présente ce type de plan. Nous n'avons aucune autre trace de ces constructeurs admirables, seulement nous avons seulement des hypothèses. Mais bien sûr, on avance dans le temps, plus on avance dans le temps, plus les points de repère se multiplient et plus les témoignages sont fiables. Pendant le dernier millénaire, alors ça n'a plus rien à voir avec nos mégalithes, mais c'est quand même l'histoire de Malte que l'on présente. Pendant le dernier millénaire avant notre ère, Malte a été colonisée par les Phéniciens puis par les Grecs. Et ce sont les Grecs qui l'ont baptisée. Ils l'ont appelée Mélite, île du miel, ou île du refuge. On pense que le mot Mélite est une adaptation grecque du mot sémite mala, refuge. Alors sur ce point non plus,
aucune certitude.
Aucune certitude. Nul ne peut exclure que les premiers habitants aient possédé des ruches et du miel en abondance et qu'ils aient ainsi donné à leur île le doux nom de miel. Cependant, il est évident que l'archipel offrait un cadeau extraordinaire aux marins, et Dieu sait s'il y en avait à cette époque-là. Ce cadeau, c'était de nombreuses criques bien protégées où les bateaux pouvaient se réfugier. Alors, pour revenir un petit peu à la géologie, parce que j'y tiens, c'est très important toujours pour tout, c'est les soubassements. Si les géologues n'ont aucune raison de penser que la configuration de l'île se soit énormément modifiée depuis, mettons, 5000 ans, 6000 ans, ils sont en revanche presque sûrs qu'avant d'être une île, Malte était la région la plus à l'est d'un territoire qui, très anciennement, ne faisait qu'un avec la Sicile. Alors, certains éléments très, très tangibles nous l'attestent. Les calcaires du tertiaire, caractéristiques de la formation maltaise, correspondent en effet à ceux qui constituent la pointe sud-est de l'île. Malte est distante seulement à 90 km de la Sicile et elle est réunie par une grande plateforme sous-marine. Ça, ce sont les roches, mais il y a aussi les fossiles. De nombreux fossiles viennent confirmer l'origine continentale de Malte. Alors, bien sûr, il y a le colossal zeuglodon, c'est un nom un peu compliqué pour un cétacé du Miocène qui est trouvé presque intact à Gozo, c'est très rare. Mais Malte a aussi conservé des restes fossiles de trois espèces. Les éléphants, on l'a évoqué tout à l'heure, deux espèces d'hippopotames, des ours, des cerfs, c'est un peu une énumération à la Prévert, des loups, des renards, des loirs, et aussi des mollusques et des reptiles identiques à ceux qui vivaient à la même époque en Sicile.
J'ajouterais même que nous les avons vus, oui, dans l'un des musées de Malte. car ils les ont conservés.
Et puis, il y a une grotte qui sert de reliquaire, si je puis dire. Le découpage compliqué des côtes, ce qui permettait d'avoir des refuges à tous les navigateurs, serait dû justement à cet effondrement qui n'aurait laissé au-dessus du niveau de la mer que la portion la plus mouvementée des reliefs les plus élevés, des reliefs supérieurs.
Vous venez d'évoquer Anjoufra-Gozo, qui est la deuxième île de l'archipel. Je pense qu'elle mérite qu'on s'y reste quelques instants, parce que depuis La Valette, la capitale, il suffit dans le fond d'une demi-heure de voiture d'emprunter un ferry pour une traversée qui dure une vingtaine de minutes pour y parvenir. C'est très court. Cette traversée permet au passage d'admirer la troisième île, Comino. C'est un bout de rocher qui comprend alors une minuscule marina, un petit fort, un gros hôtel et une maison d'habitation dont je ne connais pas la taille. Mais nous arrivons à Gozo, et Gozo, comme on l'a nommé autrefois, Goze, et celle-là a une qualité particulière. Laquelle ?
Elle est pleine de charme. Elle est pleine de charme et elle est réputée pour sa douceur de vivre. Gozo est le Mezzogiorno de Malte. Et Malte, d'ailleurs, regarde avec attendrissement sa petite jumelle parce que c'est une toute petite île, Gozo. Elle fait 67 km² et c'est l'âme de l'archipel. Un seul exemple nous montre que Gozo est une perle, ne serait-ce que parce qu'on y entend plus souvent parler maltais qu'anglais. Et puis, l'ombre sicilienne y est particulièrement palpable, tant en ce qui concerne le paysage qu'en ce qui concerne le caractère fier de ses habitants. Les paysages sont des paysages siciliens, de collines, avec de petits villages couronnés de grandes églises, et comme nous sommes pas loin de la Sicile, avec des dômes baroques. Les habitants, les Gozitains, alors Gozitains, Gozitans, les deux se disent, on entend les deux. Les Gozitains, donc, sont très fiers de leur territoire, de leur histoire, et ils ont aussi, en particulier, une grande fierté d'avoir accueilli les amours d'Ulysse et Calypso. Alors, bien sûr, ce sont des amours légendaires, mais ce sont peut-être les plus belles, d'ailleurs. Gozo a une minuscule capitale, baptisée Victoria. Ça, c'est en raison des Anglais, puisque en l'honneur du jubilé de la reine Victoria en 1897, c'était l'anniversaire des 60 ans de son règne, on a baptisé la ville qui s'appelait autrefois Rabat, Victoria. Mais en fait, la plupart du temps, son nom traditionnel, Rabat, est toujours utilisé. Au-dessus de cette petite capitale, il y a une citadelle médiévale superbe. Superbe, qui domine toute la mer. Ça fait un panorama à 360 degrés. Et elle était construite pour protéger la population contre les razzias des corsaires barbaresques. Elle surplombe la petite bourgade. En ce qui concerne les razzias des corsaires barbaresques, parfois, malheureusement, ils pénétraient jusque dans la citadelle. Et en 1551, 7000 Gozitains environ ont été réduits en esclavage. Et donc, il ne restait pas grand-chose sur l'île. Alors, la question est, pourquoi les Maltais, ceux de la grande île à côté, n'ont pas pris le temps de les secourir? Ça, c'est une autre histoire.
Ah, mais ça, je peux vous l'expliquer en deux mots. À l'époque, le grand maître était Juan de Omedes, sans doute le plus mauvais des souverains que l'or dut à compter. Il ne voulait écouter aucun des conseils qui lui étaient donnés parce qu'il craignait d'être joué. C'était un être faible, assez avide, qui favorisait davantage sa famille que la population. Et déjà, en 1547, donc peu de temps auparavant, le corsaire turc Dragu avait débarqué et commencé à ravager plusieurs villages. Omedes refuse d'en intervenir. Le commandeur de Villegagnon, un Français, oui, prenant sur lui, réagit et organisa les défenses et les Ottomans furent repoussés. 4 ans plus tard, Villegagnon, hélas, n'était pas là pour passer outre l'incurie du grand maître. Et ce qui est arrivé, l'île a été complètement vidée. Et il est intéressant de souligner que l'île n'ayant plus de population, on fit venir des Siciliens qui peuplèrent l'île. Et c'est aussi une des raisons qui explique ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que cette ressemblance, cette jumélité avec la Sicile, et toujours ce regard tourné vers le nord, plutôt que vers le sud de la grande île. Enfin, toujours est-il que les successeurs du grand maître Médès, bon, surtout après le grand siège de 1565, car les attaques des Ottomans et des Barbaresques n'ont cessé pendant toutes ces années-là, et même encore jusqu'au XVIIe et XVIIIe siècle, firent construire des tours de guet sur toute l'île.
Mais depuis le XVIIIe, tout s'est apaisé. Les criques de Gozo, ces eaux transparentes, ces grottes et ces garrigues sont redevenues paisibles, et les antiquaires, disons les archéologues de l'époque, puis c'est ainsi qu'on les appelait, ont pu découvrir peu à peu ces temples mégalithiques qui font vraisemblablement partie des plus anciens monuments du monde.
Alors, ce qui est quand même très curieux, c'est que personne ne s'était vraiment intéressé à ces pierres avant la seconde partie du XVIIIe siècle. Bon, il est vrai que ces antiquaires, comme vous le disiez, ne se sont manifestés qu'à cette époque. Souvenons-nous de la découverte de Pompéi d'Herculanum qui a provoqué donc les voyages et le fameux Grand Tour qui a conduit bon nombre de jeunes gens de bonne famille depuis l'Italie jusqu'à la Sicile et aussi également à Malte. Et le premier des auteurs à véritablement s'intéresser aux monuments mégalithiques fut le graveur, un Français, Jean Well, qui de son passage à Malte en 1770 a laissé de nombreuses planches. Alors celles-là ont été de nombreuses fois reproduites, c'était les premières, ont été interprétées par des graveurs comme Lacroix. Pour illustrer, un livre que je vous conseille si jamais vous le trouvez, c'est le volume du Tour du Monde, consacré à Malte et publié en 1833. Un peu plus tard, un autre peintre, Carl Friedrich von Bockdorf, qui lui s'est établi à Malte, il même fait souche, reçut en 1828 la commande du premier duc de Buckingham de produire une série de vues de Malte et de Gozo. Il réalisa 49 aquarelles de Malte, 21 dessins de Gozo. Parmi eux, on compte 17 vues des temples Gigantia et du cirque Charachtone. Ces dessins et ces aquarelles ont permis aux archéologues de retrouver les temples et les sites qui avaient été peu à peu enfouis dans la terre et que les paysans redécouvrirent comment, en labourant leur champ, tout d'un coup une pierre. Et cet enfouissement, finalement, les a d'ailleurs protégés.
Oui, et les îles de Malte et de Gozo abritent 7 temples mégalithiques. À Gozo, les 2 temples de Gigantia datent de 5000 ans avant Jésus-Christ. On les appelle également tours des géants, d'où le nom Gigantia, et parce que les blocs de pierre extérieurs peuvent atteindre 6 mètres de haut.
Et la population connaissait bien sûr ces amoncellements d'énormes pierres. Ils ne savaient pas très bien ce que c'était. Alors ils imaginaient, il y a toujours des légendes, ils imaginaient que c'était des géants, donc d'où le nom que nous disions, qui habitaient autrefois sur l'île. Et on racontait que l'un de ces géants portait la pierre sur la tête, cette pierre-là de 6 mètres de haut, et que son fils mangeait toujours des fèves.
On cite également à Gozo le temple Marziena, celui d'El Mrama, de Santa Verna et l'hypogée du cercle de Chara. Chara Circle est un hypogée et c'est une grotte artificielle et on parle d'hypogée quand il y a une antichambre à cette grotte artificielle.
Alors bien sûr là on ne parlera pas de cet hypogée parce que c'est vraiment un champ et les archéologues n'ont pas terminé d'ailleurs de complètement l'examiner et de rendre leurs conclusions, on les attend toujours. Dans l'île de Malte en revanche on compte d'autres temples dont nous avons le temple de Agarkin qui est le plus élaboré, il domine la mer. C'est dans l'une de ces 5 salles ovales que fut découverte la Vénus de Malte. Elle est conservée au Musée national d'archéologie et d'autres statues. Et ce temple est pour la première fois mentionné en 1647. Pour le protéger aujourd'hui, on l'a couvert d'une immense toile, ce qui d'ailleurs facilite la visite parce que le sol de Malte est parfois assez dur. Ensuite, vous avez le temple de Emanidra, qui fut découvert en 1840, et c'est son voisin, le voisin du premier, lui aussi recouvert. Puis ensuite, le temple de Tarchienne, qui est en forme de trèfle. Et les pierres montrent des spirales figurant des animaux sculptés en relief. Pierre Monroy, qui a visité cette île avant la dernière guerre, s'est fait photographier dans ce temple et ce cliché reproduit dans son livre publié en 1935. Bon, nous pouvons énumérer encore l'ensemble de Tahagrad, celui de Skorba et au sud de Bougjiba, Talkadi, Kortin in Madawar, Borch in Adur, Talsig, Gordine 3, qui fut découvert lui en 1909. Alors, j'espère que ma prononciation maltaise est bonne, mais on me pardonnera. J'ai essayé, mais ta chienne, c'est bien ta chienne, alors que ça s'écrit avec un X. Mais ceci, on ne fait pas de la sémantique maltaise aujourd'hui. Alors, il convient d'y ajouter encore Gardalam, la caverne des ténèbres, une grotte qui habita les premiers habitants de l'île, des éleveurs sans doute venus de Sicile il y a 4000 ans avant Jésus-Christ, et surtout l'hypogée Al-Safeliini.
Oui. Et ces sépultures collectives, ces sanctuaires souterrains, sont parmi les monuments mégalithiques les plus touchants, les plus passionnants. À la fin du 5e millénaire avant Jésus-Christ, une nouvelle vague de cultivateurs siciliens s'installe sur l'archipel. S'installe de nouveau sur l'archipel, devrais-je dire, puisque c'est au moins la deuxième vague et vous avez, on en entend, il y en aura d'autres. Le panorama culturel maltais se modifie peu à peu parce que cette société nouvelle venue apporte à Malte un nouveau rite funéraire, déjà connu dans l'Italie péninsulaire, dans les Pouilles, et puis aussi en Sardaigne et en Sicile. Alors, vers 4000 ans avant Jésus-Christ, des tombes collectives creusées dans le calcaire apparaissent à Malte. Ces tombes artificielles, d'abord, sont réservées à un seul individu, c'est-à-dire simplement au fond d'un puits. Puis, elles sont réservées à plusieurs sujets d'une même famille, puis, ça s'agrandit, d'un même sanctuaire. Et elles peuvent recevoir, vous voyez, elles vont vraiment s'agrandir, elles peuvent recevoir des centaines, on a compté 850 squelettes, et jusqu'à des milliers. 7000 individus recensés dans l'hypogée d'Al-Safalini, le plus beau, le plus grand des hypogées. Celui d'ailleurs dont on va parler bientôt plus précisément. Ces grandes nécropoles sont sur plusieurs niveaux, avec de multiples salles souterraines. Elle ne s'arrête en fait d'être creusée qu'au moment où les contraintes karstiques donnent leurs propres limites. Alors vous avez le creusement et puis vous avez aussi le creusement pour les sépultures et puis vous avez aussi les rites funéraires qui changent et qui se déroulent en plusieurs étapes. Alors on passe des inhumations primaires à des rites plus élaborés, secondaires. Alors inhumation primaire, c'est-à-dire quelques jours après le décès, on dépose le corps dans son entièreté et on s'en va pour toujours. Tandis que les nouveaux rites sont beaucoup plus complexes et ils instituent des dépositions secondaires des corps dans les hypogées collectifs avec, ça paraît étrange mais c'est très intéressant, des manipulations symboliques qui révèlent l'intention des vivants vis-à-vis des défunts. Alors, ces manipulations, par exemple, les squelettes retrouvés sont tous désarticulés après écharnage. Écharnage naturel, semble-t-il, et les écharnages du corps. Les os, eux, sont récupérés, subdivisés par groupes, crâne, tibia, fémur, etc., sont frottés à l'ocre rouge et sont répartis dans des salles différentes. Alors, il y a une école d'archéologues qui prétend que c'est un rite qui veut s'assurer ainsi que les morts ne reviendront jamais parce que comme leurs corps sont démantibulés, mais trop d'hypothèses peuvent nous emmener trop loin. Ce qu'il y a de très intéressant aussi dans ces nouveaux rites, c'est qu'on a découvert 9 statuettes stylisées en pierre calcaire, toujours à Malte, ça ne vous étonnera pas, dites bâtonnets du chaman, et d'une statuette aux divinités jumelles qui confirment des rites d'inhumation complexes, élaborés, avec des offrandes déposées dans les tombes. Et ça, c'est une grande découverte, une grande nouveauté que ce développement d'un petit mobilier funéraire sous forme de statuettes anthropomorphes au visage stylisé et avec aussi quelques boutons en coquillage, en pierre, en gypse. Alors, on ne peut pas en parler indéfiniment parce que ce matériel est toujours à l'étude. Et en ce début du XXIe siècle, ce matériel n'a pas relevé tous ses secrets et révélé tous ses secrets.
Bon, je peux vous préciser, parce qu'on ne les voit pas bien sûr à l'antenne, que ces statuettes ne tiennent pas debout. Il fallait les tenir. Elles n'ont pas de pieds, elles ne reposent pas. Donc c'est pour ça qu'on appelle des bâtons. Oui. On ne peut pas savoir, on ne sait pas. Et elles sont extrêmement utiles, elles sont très belles d'ailleurs. Et nous les reproduirons sur le site en photo. Alors l'archipel maltais compte plusieurs hypogées. Nous avons Azebouk, Chemechia, Chara, Al-Safaïn, et ce qui est le site le plus extraordinaire, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980. Donc cet hypogée d'Al-Safalini comporte une cinquantaine de salles sur environ 2500 m², réparties sur 4 niveaux, creusées à plus de 10 mètres sous le niveau du sol initial. 13 cm pour notre niveau contemporain.
Il y a des passages. 13 mètres.
13 mètres, pardon. 13 cm, il aurait fallu ramper. Des passages, donc il y a des passages et des escaliers qui relient entre les salles de différents niveaux. La découverte de ce site, qui est absolument extraordinaire et naturellement le fruit du hasard, comme toujours. C'est en 1902, en creusant une citerne à Paola, près de Marcha, des ouvriers découvrirent une cavité qu'ils s'empressèrent de consolider pour éviter un effondrement. Et ces travaux sont encore visibles aujourd'hui. Ils constatent que cette cavité n'a pas les apparences d'une grotte ordinaire et s'adressent au comité directeur du muséum qui décide d'excaver le deuxième niveau. Le niveau supérieur étant propriété privée à ce moment-là, les équipes d'ouvriers déblayèrent le site, mais malheureusement, ont dispersé les ossements, rendant impossible toute interprétation des rites d'inhumation. Les fouilles s'arrêtent, puis reprennent. Finalement, on ouvre le site au public, puis on le ferme, parce que les respirations des touristes et leur passage dégradent les parois des murs et des sols. Finalement, depuis 2000, l'hypogée est complètement réaménagée et placée sous atmosphère contrôlée, et donc on peut le découvrir de nouveau, mais seulement sur rendez-vous et par groupe de 10 visiteurs seulement.
C'est très important de le savoir.
Oui, il faut s'y prendre à l'avance. Quand vous irez, parce que vous irez naturellement, vous prenez votre rendez-vous même depuis l'endroit où vous êtes, que ce soit depuis la Thaïlande ou la France ou les États-Unis, si vous nous écoutez de si loin. Donc je vous laisse, Anne Jouffroy, le soin de décrire et de nous conduire à l'intérieur de cet endroit extraordinaire.
On a parlé de plusieurs niveaux. Au niveau du sol initial, les cavités ont un aspect grossier, sans doute parce que là, les habitants de Malte ont réutilisé des grottes qui sont naturelles pour servir de point de départ aux travaux ultérieurs de creusement. L'entrée est marquée quand même par des portails trilithes. Alors les portails trilithes, c'est un portail formé de trois grosses pierres, deux verticales qui forment l'embrasure de la porte et qui supportent la troisième, elle, c'est l'entablement. On trouve aussi un puits d'offrande dans lequel on a découvert une statuette de femme stéatopige, sans tête et deux têtes sans corps.
Stéatopige, ce qui signifie aux très grosses fesses, au contraire de Calibge aux belles fesses.
Calipige aux belles fesses, oui. Les niveaux inférieurs, je reviens plus sérieusement, les niveaux inférieurs sont d'une facture élaborée. Les cavités étaient réalisées par forage, puis par polissage, et après déblaiement des blocs de pierre et enfin une couche d'ocre. Aucun outil en métal n'ayant été trouvé à Malte pendant la période de Halfsafliini, il faut imaginer que ces travaux ont été entièrement réalisés à l'aide de simples outils en bois de serre et en pierre, et ce, dans une demi-obscurité. Les populations qui nous intéressent aujourd'hui n'ont jamais connu l'âge de bronze, bien qu'elles vivent à l'époque où globalement c'était l'âge de bronze, mais pas à Malte. Au premier niveau, on a retrouvé des ossements, une citerne et encore un portail trilithique. Alors, les ossements, ce sont les fameux 7000 dont on parlait tout à l'heure. C'est un chiffre impressionnant, mais si on le rapporte à la longue période de 7 siècles de l'occupation du site, on constate que bon, ça fait 1000 squelettes par siècle. Une citerne, je vous ai dit, sans doute il y a 4000 ans, a été creusée. On en voit les traces, elle est encore impeccable. Et puis un portail en pierre entre deux salles. Le deuxième niveau est très remarquable parce qu'il est vaste et encore plus complexe. Et on constate que les plafonds de certaines salles sont décorés de volutes peintes à l'ocre rouge, puis dans l'esprit des bas-reliefs découverts au temple voisin élevé en surface, tout à côté, le temple de Tachienne.
Et c'est dans un deuxième puits à offrande, les archéologues ont découvert des amulettes, des bijoux et surtout la fameuse Sleeping Lady, la femme endormie. Elle est allongée sur un sofa avec sa petite tête coiffée à la Jeanne d'Arc et ses grosses hanches sous sa joue plissée, une déesse de la fécondité ou de la fertilité. Permettez-moi de vous faire remarquer au passage que cette jupe plissée, qui n'a rien à envier à nos couturiers contemporains, démontre la qualité et l'avancement de la civilisation à laquelle appartenait cette lady. Dans les parois d'une des salles, appelée la chambre des oracles, trois cellules ont été creusées. La plus petite amplifie les voix graves jusqu'à envahir de façon surnaturelle tout l'hypogée. Je vous le ferai bien, mais restons calmes. Là, on peut s'en douter, le plafond est peint de spirales à l'encre rouge. Et je vais vous redonner la parole, Anne Jouffroy, pour vous laisser poursuivre notre visite.
Oui, alors juste un petit mot sur cette chambre des oracles. Par le trou de l'oracle creusé dans un mur entre deux salles, les prêtres, les savants, les devins, je ne sais pas comment il faut les appeler, sans doute un peu de tous ces noms à la fois, diffusaient des messages inspirés par les dieux. Bien sûr, prétendument inspirés par les dieux. Et c'est l'éternelle hiérarchie entre le commun des mortels et la caste dominante, celle qui se présente comme initiée. Et le troisième niveau, le dernier, est justement réservé aux initiés, à l'élite qui maîtrise la diplomatie, la science et le secret des dieux. On revient toujours là. Le traitement de la pierre est particulièrement soigné et donne à l'ensemble un véritable aspect monumental, tout à fait à l'image des temples de surface. On passe sous un portail trilite, bien sûr, et on arrive dans trois pièces remarquables. La première, la chambre la plus grande, principale, supposée lieu de culte. La deuxième, le Saint des Saints, supposé lieu réservé aux officiants, comme tout Saint des Saints. Et la troisième, c'est un petit peu plus compliqué. On l'appelle la chambre du trésor, supposé lieu d'inhumation des officiants ou bien autre fonction possible, qui correspond d'ailleurs mieux au nom trésor, ça serait la chambre des réserves qui serait protégée des regards indiscrets. Et l'accès des salles de ce niveau semble délibérément réservé aux seuls initiés, c'est-à-dire ceux qui connaissent les dangers de l'escalier tournant qui les dessert, ces salles. Et d'ailleurs, la dernière marche des sept marches est en effet un véritable piège, surtout quand on imagine l'obscurité ambiante. Nous sommes à 13 mètres au-dessous du niveau du sol. Cette fameuse marche est rehaussée sur deux pierres dressées est une véritable chausse-trappe.
Est-ce que ça serait un piège dessiné Indiana Jones?
Oui et non. Oui, si Indiana Jones n'est qu'un vulgaire aventurier trop curieux, oui, qu'il passe à la trappe. Non, si ses qualités humaines révèlent qu'il est digne d'être initié. Et alors, ça serait fantastique. On aurait au XXIe siècle un archéologue capable de répondre à toutes nos questions sans réponse. Et Dieu sait s'il y en a au sujet de cette civilisation. Par exemple, pourquoi les travaux d'agrandissement de ce dernier niveau semblent avoir été abandonnés en cours de route? Pourquoi? Et ça, tout le monde rêve de comprendre. Pourquoi, après deux millénaires, alors je rappelle, de 4500 ans à 2500 ans avant Jésus-Christ, ce peuple a disparu? Et ce fut une vraie disparition. On ne parle pas de déclin progressif. Non. C'est-à-dire qu'il a dû y avoir un fléau naturel, tsunami, maladie, une invasion avec des parts en esclavage pour l'ensemble de la population. Peut-être qu'Indiana Jones pourrait nous répondre. Et puis aussi, une autre question, pourquoi l'archipel a-t-il connu un vide total d'occupants pendant deux siècles? Et ça, on le sait, on n'a pas besoin d'Indiana Jones. Les études archéologiques nous ont assuré que de 2500 à 2300 ans avant Jésus-Christ, on ne trouve aucune trace de vie humaine sur Malte. Pourquoi? On ne sait pas.
Alors après ce que vous venez de décrire, il me semble que nous sommes en face de ce que vous appelez, Anne Jouffroy, un respect insondable d'un ordre sacré.
Oui, si on veut bien se pencher sur les motivations profondes, les aspirations religieuses qui ont incité ces hommes du néolithique à construire finalement leur basilique, leur crypte, on ne peut qu'être touché. Ce sont nos frères. Bien sûr, l'architecture et la monumentalité de leurs édifices sont conçus pour impressionner la communauté. Et tout à l'heure, j'ai un peu glosé sur ces prétendus initiés, cette organisation sociale de dominant-dominé, mais là encore, c'est dans l'ordre normal des choses. Si on veut bien se pencher sur ces sanctuaires, qui sont des lieux de vénération, qui sont sacrés, on voit que dans ce peuple, tout se passe entre ciel et terre. Et on pense, les premiers chrétiens ont qualifié de païens les paganis, qui étaient les paysans attachés au culte de la fécondité, et on retrouve à Malte ce fond paysan d'un culte de la grande mère. La religion, ici, comporte deux aspects du monde néolithique. Le premier, un culte rendu à une entité féminine, déesse mère ou déesse de la fécondité, promesse de bonne récolte, de beaux enfants bien portants, et aussi d'une Vénus qui c'est un peu l'équivalent de la déesse de la fécondité. Et puis le second culte, c'est le culte des morts qui comporte des rites knoniens.
en vous écoutant, nous sommes vraiment devant une civilisation très élaborée.
Oui. Et ce premier peuple maltais qui nous a laissé des traces est très attachant. D'une part, c'est un peuple paisible. On n'a retrouvé aucune arme. D'autre part, il semble qu'il ne pratiquait pas de sacrifice humain. Sous les tables de sacrifice, les archéologues n'ont découvert que des os d'animaux. Ce n'est pas le cas de tous les peuples mégalithes. En fait, ces grandes préoccupations étaient les mêmes que les nôtres, les mêmes que celles de toute humanité, pensante et vibrante depuis que le monde est monde. D'abord d'ordre matériel, bien sûr, il faut bien vivre, mais aussi d'ordre métaphysique, parce qu'il faut bien mourir. Et je dirais pour conclure que la dignité de ces grands ancêtres nous émeut particulièrement, et je pense à Baudelaire quand il évoque cette éternelle inquiétude, cette mélancolie des hommes en quête de sacré. Je cite Baudelaire, « Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. »